relatant les circonstances qui m'ont amené à être enfermé dans cet asile de fous, je suis conscient que ma situation actuelle sera source de doutes bien légitimes quant à l'authenticité de mon récit. Il est dommage que l'essentiel de l'humanité ait une vision mentale trop limitée pour considérer avec patience et intelligence ces phénomènes isolés qui, en ceci qu'ils dépassent l'expérience commune, ne sont visibles et sensibles que par quelques individus au psychisme affûté. Les hommes à l'intellect élevé savent qu'il n'y a pas de différence tranchée entre réel et irréel, que la manière dont les choses nous apparaissent dépend uniquement du délicat et subjectif filtre physique et mental, sans lequel nous n'aurions pas conscience de leur existence. Mais les masses, dans leur matérialisme inélégant, attribuent à la démence les éclairs de lucidité qui parviennent à pénétrer le voile prosaïque de l'empirisme banal. Je m'appelle Gervas Dudley, et je suis rêveur et visionnaire depuis mes plus tendres années. Suffisamment riche pour ne pas être obligé de travailler, et de par mon tempérament, inapte aux études formelles et aux distractions sociales de mes connaissances, je me suis toujours réfugié dans des royaumes extérieurs au monde visible, passant mon enfance et mon adolescence dans des livres anciens et peu connus, ou à vagabonder dans les champs et bosquets proches de la demeure de mes ancêtres. Je ne crois pas avoir lu dans ces livres ou vu dans ces champs et bosquets la même chose que les autres garçons de mon âge. Toutefois, je dois me taire sur ce sujet, car en en parlant en détail, je ne ferai que confirmer les cruelles calomnies que se glisse furtivement le personnel de l'asile quant à mon intelligence. Je me contenterai donc de raconter les événements sans en analyser les causes. J'ai dit que je me réfugiais à l'écart du monde visible, mais pas que je m'y réfugiais seul. Cela, personne n'en est capable, car sans la compagnie des vivants, on en vient inévitablement à rechercher celle de ce qui n'est pas ou plus vivant. Je passais le plus clair de mon temps à lire, à réfléchir et à rêver dans les profondeurs crépusculaires d'une singulière combe boisée, non loin de chez moi. C'est dans ces pentes moussues que je fis mes premiers pas, et parmi ces chaînes difformes que se forgèrent les premiers rêves de mon enfance. J'allais volontiers lier connaissance avec les dryades, maîtresses de ces arbres, et contemplais souvent leur danse sauvage sous les rayons hésitants de la lune déclinante. Mais ce n'est pas le moment d'évoquer ces souvenirs. Je ne parlerai que de la tombe perdue dans les fourrés les plus sombres de la pente. Le caveau abandonné des Hyde, vieille famille glorifiée dont le dernier descendant direct avait été enterré là plusieurs décennies avant ma naissance. Le tombeau en question est taillé dans du vieux granit érodé et décoloré par des lustres de brouillard et d'humidité. Creusé à même la pente, la structure n'est visible que lorsqu'on se trouve devant. La porte, dalle de pierre aussi lourde qu'effrayante, s'appuie sur des gonds de fer rouillés et est maintenue entrebâillée, détail sinistre autant qu'étrange, par des chaînes et cadenas de gros calibre, suivant la mode macabre d'il y a un demi-siècle. La demeure de la race dont les rejetons reposaient là dominait jadis la pente recélant la tombe, mais avait été dévorée par un incendie, un jour que la foudre s'était abattue sur elle. Les habitants les plus âgés de la région évoquent parfois d'une voix basse et peu assurée la tempête nocturne qui détruisit ce sinistre manoir. Ils font allusion à la « colère divine », d'une manière qui, plus tard, renforça insidieusement la fascination déjà forte que je concevais depuis toujours pour le sépulcre caché dans les ténèbres de la forêt. Un seul homme avait péri dans l'incendie. Lorsque le dernier des Hyde fut inhumé en ce lieu de pénombre et d'immobilité, l'urne contenant ses tristes cendres parcourut une très grande distance pour gagner sa dernière demeure, car la famille, après la catastrophe, s'était exilée. Il n'y a plus personne pour déposer des fleurs devant la porte de granit, et rares sont ceux qui osent affronter les ténèbres déprimantes qui semblent ne pas vouloir quitter ces pierres érodées. Je n'oublierai jamais l'après-midi où je tombais par hasard sur ce caveau à moitié caché. C'était en plein été, au moment où la nature, par alchimie, transforme le paysage sylvain en une saisissante masse d'un vert presque homogène, où les sens sont presque enivrés par les vagues démontées de verdure humide et les relents subtils, indéfinissables, de la terre et des plantes. Dans un tel environnement, l'esprit perd le sens de la perspective. Le temps et l'espace deviennent futiles, irréels, et les échos d'un passé oublié, préhistorique, viennent avec insistance se briser sur la conscience fascinée. J'avais erré toute la journée dans les bosquets mystiques de la combe, empli de pensées que je tairais, conversant avec des choses que je ne nommerais pas. Âgé de 10 ans seulement, j'avais eu vent de bien des secrets ignorés de la foule. À certains égards, j'étais étonnamment mûr. Lorsque, me frayant un passage entre 2 ronciers, je découvris soudain l'entrée du caveau, je ne sus pas immédiatement ce que j'avais trouvé. Les blocs sombres de granit, l'entrebâillement insolite de la porte, les gravures funéraires sur le linteau, n'éveillèrent chez moi ni tristesse ni frayeur. Je savais et imaginais bien des choses sur les tombeaux de toutes sortes, mais, à cause de mon tempérament particulier, on m'avait toujours tenu à l'écart des cimetières. L'étrange édifice de pierre sur la pente boisée n'était pour moi qu'une source d'intérêt et d'hypothèse. Quant à son intérieur froid et humide, que j'essayais en vain d'apercevoir par l'embrasure si tentante, il n'était pour moi synonyme ni de mort, ni de pourrissement. Cependant, c'est à cet instant que de ma curiosité naquit le désir furieusement déraisonné qui m'a conduit à l'enfer de la réclusion. Poussé par une voix qui devait provenir de l'âme hideuse de la forêt, je résolus de pénétrer dans l'attirante obscurité malgré les lourdes chaînes qui me barraient la route. À la lumière déclinante du jour, j'essayais alternativement de secouer avec fracas les maillons rouillés afin d'ouvrir la porte en grand et de glisser mon corps fluet dans l'entrebâillement qui existait déjà. Mais aucun de ces 2 plans ne fonctionna. Ma curiosité initiale céda le pas à la colère. Je rentrai à la maison au crépuscule, non sans avoir auparavant juré au sang dieu du bosquet de parvenir un jour et à n'importe quel prix à entrer dans ces profondeurs noires et glaciales qui semblaient m'appeler. Le médecin à barbe griffère qui vient quotidiennement dans ma chambre a dit à un visiteur que cette décision a marqué le début de ma pitoyable obsession. Mais mes lecteurs pourront en juger par eux-mêmes lorsqu'ils sauront tout de l'affaire. Je consacrai les mois suivants ma découverte à tenter de faire sauter le cadenas compliqué de la porte entrouverte et à faire de discrètes recherches sur la nature et l'histoire de l'édifice. Étant ouvert d'esprit comme tous les enfants, j'appris beaucoup de choses. Toutefois, mon goût du secret m'empêcha de parler à quiconque des informations recueillies ou de ce que j'avais décidé d'entreprendre. Il peut être utile de préciser que je ne fus ni surpris ni terrifié en découvrant ce qu'était ce bâtiment. Mes conceptions plutôt originales sur la vie et la mort m'avaient amené à associer, quoique de manière vague, l'argile froide et les corps vivants. Et j'avais le sentiment que la célèbre et sinistre famille du manoir brûlé était en quelque sorte représentée dans cet espace de pierre que je cherchais à explorer. Les murmures sur les rites insolites et les fêtes impies qui avaient autrefois eu lieu dans la vieille bâtisse renouvelèrent et renforcèrent mon intérêt pour la tombe, devant la porte de laquelle, jour après jour, je restais assis des heures durant. Une fois, j'introduisis une bougie par l'étroite embrasure, mais n'aperçus que des marches humides qui s'enfonçaient dans le sol. La puanteur des lieux me repoussait en même temps qu'elle m'attirait. J'avais l'impression de l'avoir déjà connue dans un passé si lointain qu'il échappait au souvenir, si lointain qu'il précédait même l'époque où j'entrais dans ce corps qui est désormais le mien. L'année suivant ma découverte initiale du tombeau, je tombai par hasard sur une traduction rongée par les vers des vies de Plutarque, parmi les innombrables livres rangés dans notre grenier. À la lecture de la vie de Thésée, je fus très impressionné par le passage parlant de la pierre sous laquelle le héros juvénile était censé trouver les preuves de sa destinée lorsqu'il serait en âge de soulever son poids énorme. Cette légende eut pour effet de dissiper un peu de mon impatience, en m'aidant à comprendre que je n'étais pas prêt. Avec le temps, me disais-je, je finirais par avoir la force et l'ingéniosité qui me permettraient de défaire facilement les lourdes chaînes maintenant la porte fermée, mais d'ici là, mieux valait me plier à la volonté du destin. Ainsi donc, je mis moins d'insistance à monter la garde devant le portail froid et humide, et consacrai le plus clair de mon temps à d'autres quêtes non moins étranges. La nuit, il m'arrivait de me lever sans bruit et de sortir discrètement visiter ces cimetières et nécropoles dont mes parents m'avaient toujours tenu éloigné. Je ne peux raconter ici ce que j'y faisais, car je ne suis plus sûr de la réalité de certains détails. Mais je sais que, le lendemain de ces pérégrinations nocturnes, j'étonnais souvent mon entourage par ma connaissance de sujets, pour ainsi dire, oubliés depuis de nombreuses générations. C'est suite à une telle nuit que je scandalisais la communauté avec un singulier trait d'esprit sur l'enterrement du riche et célèbre propriétaire terrien Brewster, personnalité de premier plan dans l'histoire locale, qui fut inhumé en 1711 et dont la pierre tombale en ardoise, sur laquelle était sculpté un symbole de tête de mort, tombait lentement en poussière. Dépassé par mon imagination puérile, j'affirmais non seulement que le croque-mort, un certain Simpson, avait dérobé les chaussures à boucles d'argent, les bas de soie et la culotte de satin du défunt, mais aussi que ce dernier, pas tout à fait mort, s'était retourné par deux fois dans sa bière sous terre le lendemain de son inhumation. Néanmoins, l'idée de pénétrer dans la tombe ne quitta jamais mes pensées. Elle fut même renforcée par une découverte généalogique inattendue. Mes ancêtres, du côté de ma mère, avaient un lien de parenté, si ténu fut-il, avec la famille Hyde, supposée éteinte. En tant que dernier rejeton de la race paternelle, j'étais donc aussi le dernier représentant de cette lignée plus ancienne et plus mystérieuse. Je commençais à penser que cette tombe était à moi, et fus d'autant plus impatient de voir arriver le moment où je pourrais franchir son seuil et descendre dans les ténèbres par l'escalier de pierre visqueuse. J'avais pris l'habitude d'écouter très attentivement à la porte légèrement entr'ouverte, réservant les heures silencieuses du milieu de la nuit, mon moment préféré, pour cette veille curieuse. Lorsque vint ma majorité, j'avais défriché les fourrés de manière à créer une petite clairière devant la façade tachée de moisissures qui perçait le flanc de la colline, si bien que la végétation encerclait et surplombait le lieu, telle une tonnelle végétale. Cette tonnelle était mon temple, la porte fermée, mon sanctuaire. Je m'étendais là, à même le sol moussu, laissant libre cours à mes pensées étranges et à mes rêves insolites. C'est par une nuit étouffante que j'eus ma première révélation. La fatigue avait dû avoir raison de moi, car j'eus la nette impression de me réveiller en entendant les voix. J'hésite à parler de leur timbre et de leurs accents, et me refuse carrément à évoquer leur nature. Je dirai seulement que ce que j'entendis présentait des particularités troublantes au niveau du vocabulaire, de la prononciation et du mode articulatoire. Toutes les nuances du dialecte de Nouvelle-Angleterre, depuis les syllabes peu raffinées des colons puritains jusqu'à la rhétorique précise d'il y a 50 ans, me paraissait représentée dans cette obscure conversation, même si je ne m'en aperçus que plus tard. Sur le moment, en effet, un autre phénomène attira mon attention, un phénomène si fugace que je ne pourrais jurer de sa réalité. En me réveillant, j'avais eu la vague impression qu'une lumière avait été éteinte à la hâte dans les profondeurs du tombeau. Je crois n'avoir ressenti ni stupéfaction ni panique, mais je sais que cette nuit-là se produisit en moi un changement aussi important que définitif. De retour chez moi, j'allais tout droit vers un coffre qui pourrissait au grenier et dans lequel je trouvais la clé qui, le lendemain, ouvrit sans mal la porte que j'avais si longtemps prise d'assaut en vain. C'est dans la douce lumière de la fin d'après-midi que j'entrais pour la première fois dans le tombeau du coteau oublié. J'étais comme ensorcelé, et mon cœur battait à tout rompre sous l'effet d'une exultation que je ne saurais décrire de la manière qui conviendrait. Je refermai la porte derrière moi, et, à la seule lumière de ma chandelle, descendis les marches dégoulinantes. J'avais l'impression de connaître le chemin, et malgré le grésillement de la bougie qui s'étouffait dans l'atmosphère viciée des lieux, je me sentais étrangement à l'aise parmi ces odeurs de caveaux et de moisissures. Je regardai autour de moi et vis de nombreuses dalles de marbre, sur lesquelles étaient posés des cercueils ou des vestiges de cercueils. Certains étaient scellés et intacts, mais d'autres avaient presque disparu. Il n'en restait que des poignées et plaques d'argent noyées dans de drôles de tas de poussière blanchâtre. Sur une plaque, je lus le nom de Geoffrey Hyde, arrivé du Sussex en 1640 et mort quelques années plus tard. Dans une alcôve bien visible se trouvait une bière inoccupée et assez bien conservée, seulement ornée d'un nom qui me fit à la fois sourire et frissonner. Mû par une étrange impulsion, je grimpai sur le large catafalque, éteignis ma bougie et m'allongeai dans le cercueil vide. Dans la lumière grise de l'aube, je sortis en chancelant du caveau et refermai la chaîne de la porte derrière moi. Je n'étais plus un jeune homme, même si mon corps n'avait connu la froidure que de 21 hivers. Les lève-tôt qui assistèrent à mon retour me regardèrent bizarrement et s'étonnèrent de voir un homme réputé sobre et solitaire montrer les signes d'une grande jubilation. Je n'apparus pas devant mes parents avant de m'être autorisé un long sommeil réparateur. À partir de ce moment, je hantais la tombe chaque nuit, voyant, entendant et faisant des choses que je me dois d'oublier à jamais. Mon parler, toujours prompt à évoluer selon mon environnement, fut ce qui changea en premier. On me fit des remarques sur ma diction, soudainement empreinte d'archaïsme. Par la suite, je devins singulièrement audacieux et imprudent, et sans m'en apercevoir, malgré une vie de solitude, je commençai à me comporter en homme d'expérience. Mon silence habituel fit place à l'aisance gracieuse d'un Chesterfield ou au cynisme impie d'un Rochester. J'étalais une érudition surprenante, sans le moindre rapport avec le savoir insolite que j'avais étudié de près dans ma jeunesse monacale. Je couvrais la page de garde de mes livres d'épigrammes improvisées, rappelant Gay, Prior, et les rimeurs et hommes d'esprit les plus alertes de l'âge augustinien de la littérature britannique. Un matin, au petit déjeuner, je frôlais le désastre en déclamant d'une voix manifestement avinée un texte digne du 18e Hilar, extrait d'allégresse toute géorgienne qui n'avait jamais été couchée par écrit et qui donnait à peu près ceci. Venez là, mes amis, avec vos chopes de bière, et buvons au présent avant qu'il date d'hier. De bonnes pièces de viande emplissez vos assiettes. Sans le boire, le manger, il n'y aurait pas de fête. Servez donc l'hydromel, car la vie est bien frêle. Mort, on ne peut pas boire à son roi et sa belle. On dit qu'Anacréon avait le nez cramoisi. Qu'importe, quand on est heureux et réjoui? Dieu me foudroie. Autant être rouge et vivant que blanc comme un lys et mort depuis un an. Alors viens, ma beauté, me donner un baiser. En enfer, il n'y a pas de fille de tenancier. Le jeune Harry a beau essayer d'être stable, il perdra sa perruque en roulant sous la table. Mais emplissez vos coupes et passez donc la bière. Mieux vaut être sous la table que sous la terre. Festoyez et riez, n'oubliez d'écluser, 6 pieds sous terre, difficile de s'esclaffer. Que le malin m'emporte! Je peux à peine marcher, encore moins me tenir debout ou bien parler. Tenancier, qu'on m'apporte une chaise à porteur, je vais rentrer chez moi, car ma femme est ailleurs. Qu'on me donne la main, je ne suis pas vaillant, mais je serai heureux tant que je serai vivant. C'est à peu près à cette époque que naquit ma peur des flammes et de l'orage. Jusque-là indifférente à ces choses, je me mis à éprouver à leur égard une indicible terreur. Chaque fois que les cieux menaçaient de cracher leur foudre, je me réfugiais dans les recoins les plus reculés de la maison. Dans la journée, j'aimais à me terrer dans la cave en ruine du manoir brûlé, que je me représentais tel qu'il avait été à l'époque de sa gloire. Un jour, je surpris un villageois en le conduisant sans hésitation dans un sous-sol peu profond, dont je semblais connaître l'existence bien que nul n'en eût entendu parler depuis maintes générations. Mais ce que j'avais si longtemps redouté finit par se produire. Mes parents, alertés par le comportement et l'apparence de leur fils unique, commencèrent à espionner, encore qu'avec bienveillance, mes faits et gestes, ce qui risquait de se solder par un désastre. Comme je gardais religieusement mon objectif secret depuis l'enfance, personne n'était au courant de mes visites à la tombe. Mais désormais, je devais me faufiler dans le dédale de la combe boisée afin de semer un éventuel poursuivant. Je gardais la clé du caveau attachée à un cordon autour de mon cou, à l'insu de tous, et n'emportais jamais ce que je découvrais dans la tombe. Un matin, que je sortais de l'édifice humide et refermais la chaîne d'une main assez peu assurée, j'aperçus avec effroi, dans les fourrés voisins, le visage d'un observateur. À coup sûr, la fin de l'aventure était proche, puisque l'on avait découvert mon temple et percé à jour l'objet de mes pérégrinations nocturnes. L'homme ne m'aborda pas. Aussi me hâtais-je de rentrer à la maison pour entendre ce qu'il allait raconter à mon père inquiet. Mes séjours dans les profondeurs de la tombe allaient-ils être dévoilés au monde? Imaginez combien ma surprise fut agréable quand j'entendis l'espion informer mes parents à voix basse que j'avais passé la nuit dans la clairière, devant la tombe. Mes yeux vitreux de sommeil rivés sur l'entrebâillement de la porte cadenassée. Mais par quel miracle l'observateur avait-il pu se tromper à ce point? J'étais désormais certain qu'une puissance surnaturelle me protégeait. Encouragé par ce coup de théâtre providentiel, je cessais totalement de me cacher lorsque je me rendais au tombeau, car j'étais certain que nul ne me verrait y pénétrer. Une semaine durant, je goûtais pleinement les plaisirs du monde sépulcral, un plaisir que je dois taire, et soudain la chose se produisit, et je fus emporté dans cette maudite demeure de chagrin et de monotonie. Je n'aurais pas dû mettre le nez dehors cette nuit-là, car les nuages étaient couleur d'orage, et une lueur infernale montait du marais nauséabond au fond de la combe, jusqu'à l'appel des morts qui était différent. Au lieu de la tombe du flanc de la colline, c'est sur la crête, dans la cave calcinée, que le démon me faisait signe de ses doigts invisibles. Alors que, sortant d'un bosquet, j'émergeais sur la plaine qui s'étendait devant la ruine, mes yeux contemplèrent, sous le clair de lune brumeux, un spectacle dont j'avais toujours subodoré que je le verrais. Le manoir, disparu depuis un siècle, s'offrait à nouveau, de toute sa majestueuse hauteur, au regard extasié. Toutes les fenêtres étaient illuminées de nombreuses bougies. Et dans la longue allée roulaient les voitures de l'aristocratie bostonienne, tandis qu'une foule de gentilshommes poudrés arrivait à pied des manoirs voisins. Je me mêlais à eux, tout en sachant que j'étais l'hôte plutôt que l'invité. À l'intérieur, tout n'était que musique et éclats de rire, et le vin coulait à flots. J'identifiais plusieurs visages, mais il m'aurait été plus facile de les reconnaître s'ils avaient été desséchés ou rongés par la mort et la décomposition. J'étais l'élément le plus déchaîné de cette foule en délire. Des torrents de blasphèmes se déversaient gaiement de mes lèvres, et dans mes scandaleuses saillies, je ne me souciais plus des lois de Dieu, des hommes ou de la nature. Soudain, un coup de tonnerre couvrit les cris porcins des festoyeurs. L'explosion du toit imposa un silence apeuré à la tapageuse assemblée. Des langues de flammes rouges et des bourrasques brûlantes enveloppèrent la bâtisse, et les noceurs, terrifiés par cette calamité dont la violence semblait dirigée surnaturelle, s'enfuirent en hurlant dans la nuit. Je restai seul, rivé à mon fauteuil par une peur sournoise que je n'avais encore jamais ressentie. C'est alors qu'une autre terreur s'empara de mon âme. Brûlé vif, le corps réduit en cendres et dispersé aux quatre vents. Jamais je ne reposerai dans le tombeau des Hyde. Le cercueil vide pourtant ne m'était-il pas destiné? N'étais-je pas en droit de dormir pour l'éternité parmi les descendants de Sir Geoffrey Hyde? Si fait, je réclamerais mon dû dans la mort, même si mon âme devait errer des siècles durant, en quête d'un nouveau corps pour la représenter sur la dalle vacante, dans l'alcôve du caveau. Jamais Gervas Hyde ne partagerait le triste sort de Palinure. Alors que le spectre du manoir en flammes s'estompait, je m'aperçus que je poussais des cris et me débattais de toutes mes forces aux mains de deux hommes, dont l'espion qui m'avait suivi jusqu'à la sépulture. Il tombait une pluie torrentielle, et à l'horizon sud, on voyait les éclairs de l'orage qui, peu de temps auparavant, était passé au-dessus de nos têtes. Tandis que je hurlais, en suppliant que l'on me laisse reposer dans la tombe, mon père, tout près de moi, le visage marqué par le chagrin, ordonnait régulièrement à mes ravisseurs de me traiter avec le plus de douceur possible. Un cercle noir sur le sol de la cave en ruine indiquait l'endroit où la foudre avait frappé, l'endroit précis où des villageois munis de lanternes fouinaient dans un coffret de facture très ancienne que la foudre avait exhumé. Cessant de me débattre, car l'effort était vain et désormais sans objet, je regardais les curieux et l'on m'autorisa à voir ce qu'ils avaient découvert. La boîte, dont les attaches avaient été brisées sous le choc, contenait maints documents et objets de valeur, mais je n'avais Dieu que pour l'un d'eux, une miniature en porcelaine représentant un jeune homme à la perruque élégamment bouclée, miniature qui portait les initiales J.H. En contemplant le visage, j'eus l'impression de me voir dans un miroir. Le lendemain, on m'enferma dans cette pièce aux fenêtres à barreaux. Mais un vieux domestique, Simplet, que j'aimais bien quand j'étais petit et qui partage mon goût pour les cimetières, me tient informé de certaines choses. Le peu que j'ai osé raconter de mes expériences à l'intérieur du caveau ne m'a valu que sourire compatissant. Mon père, qui me rend fréquemment visite, m'assure que je n'en ai jamais franchi la porte et jure, après examen du cadenas rouillé, que nul n'a touché ce dernier depuis 50 ans. Il affirme même que tout le village était au courant de mes expéditions au tombeau et que l'on m'a souvent vu dormir dans la clairière, face à la sinistre façade, mes yeux mi-clos rivés sur l'embrasure. Je n'ai aucune preuve concrète à opposer à ces assertions, car la nuit du drame, j'ai perdu la clé du cadenas en me débattant. En ce qui concerne les étrangetés historiques apprises lors de mes rencontres avec les morts, mon père m'objecte qu'elles sont le fruit d'une vie passée le nez plongé dans les vieux volumes de la bibliothèque familiale. À l'heure qu'il est, sans mon vieux serviteur Hiram, je serais convaincu de ma folie. Mais Hiram, loyal jusqu'au bout, a gardé foi en moi et a fait une chose qui m'empêche de rendre publique une partie au moins de mon histoire. Il y a une semaine, il a fait sauter la chaîne qui maintenait la porte du tombeau perpétuellement entrouverte et est descendu avec une lanterne dans les sombres entrailles de ce dernier. Sur une stèle, dans une alcôve, il a trouvé un vieux cercueil vide dont la plaque ternie porte seulement un prénom, Gervas. On me l'a promis, c'est dans ce cercueil, dans ce caveau, que je serai enterré. Thank you.